16 ans déjà que sa voix s'est éteinte, mais que son écho continue de résonner à travers la République démocratique du Congo et bien au-delà. En juin 2010, l'assassinat de Floribert Chebeya, figure emblématique de la défense de droits humains et fondateur de la Voix de Sans Voix, plongeait tout un peuple dans la stupeur et le deuil. Il payait de sa vie son combat acharné pour la justice, la vérité et la dignité des plus vulnérables. Aujourd'hui, pour honorer sa mémoire ainsi que celle de son chauffeur Fidel Bazana et ne jamais oublier l'homme derrière le martyr, nous vous proposons un document exceptionnel. Nous remettons les temps en 2007, 3 ans avant les drames. Alain Irung avait le privilège de recevoir Floribert Chebeya dans cette émission Grand Témoin. À cette époque, le climat était lourd, les pressions constantes, mais sa détermination restait intacte. Dans cet entretien, vous allez entendre un homme calme, d'un courage immense, qui analysait sans concession la situation de notre pays et les défis de notre société. Écoutez ou réécoutez cette émission 16 ans après sa disparition. Ce n'est pas seulement faire un travail de mémoire, c'est raviver une flamme, c'est mesurer l'héritage d'un géant et c'est demander où en sommes-nous aujourd'hui avec les valeurs pour lesquelles il a sacrifié sa vie. Installez-vous. Voici Floribert Chebeya, en 2007, une voix intemporelle, une voix qui refuse de se taire. Bienvenue dans Grand Témoin, mémoire vivante d'une nation.
Radio Kapi, le souffle du Congo.
L'émission que vous allez suivre est une rediffusion.
Le grand témoin.
Bonjour à tous et merci de rester fidèles à Grand Témoin. Grand Témoin qui reçoit aujourd'hui Floribert Chebeya Bahiziré. Il est président de l'ONG des droits de l'homme, La Voix des Sans Voix. Nous l'accueillons en le remerciant d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Alain.
Qu'est-ce que La Voix des Sans Voix? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement et pour quel intérêt? Voilà des questions que nous aborderons dans la seconde partie de cet entretien. Pour l'instant, intéressons-nous à l'homme qui dirige cette organisation. Floribert Chebeya, vous êtes né à Bukavu, au sud Kivu. Vous avez quand même des souvenirs d'enfance?
Oui, de nombreux souvenirs d'enfance.
Tels que?
Ma famille, l'environnement, les pluies de Bukavu, la boue, la distance entre la commune de Kadutu et Banda pour aller à l'école. Donc, les petites filles, l'adolescence, les difficultés de la vie également.
Parlez-nous des petites filles de l'adolescence.
C'est comme tout adolescent qui découvre le monde, qui veut se réaliser à travers, n'est-ce pas cela. Mais Dieu nous a gardés parce que ça peut conduire également à l'égarement et sacrifier l'avenir.
Et vous êtes né dans une famille de combien d'enfants?
Nous sommes 8 enfants, donc 4 filles, 4 garçons. J'ai clôturé la série. Je suis donc le cadet de la famille. Je suis né en 1963.
Le plus choyé de tous, donc.
Peut-être c'est ce que j'apprends, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais peut-être il y a une bonne part de vérité. Oui. Je suis né à l'hôpital général de Bukavu en 1963, le 13 septembre 1963.
Et quels souvenirs vous gardez de Bukavu, puisque vous êtes à Kinshasa, vous résidez à Kinshasa, n'est-ce pas?
Oui, la fraîcheur, l'environnement, voilà.
Et vos études, parlez-nous aussi de vos études.
J'ai commencé à fréquenter l'école primaire en 1969, à l'école primaire officielle de Kadutu. Après ça, j'ai fait les études secondaires à l'Institut Bahati, qui est juste à côté de l'église catholique Saint-François de Bukavu. Là, je suis allé continuer les études humanitaires à l'Athénée d'Ibanda, donc l'Institut d'Ibanda, où nous avons fait quelques années avant de poursuivre les mêmes études à Kinshasa. Là, nous sommes vers les années 81, où nous avons décroché notre diplôme d'État avant de continuer les études supérieures universitaires.
Et vous arrivez à Kinshasa, pourquoi?
Là, je venais de rater mon examen d'État, donc en 1981. Il faut dire que la qualité de l'enseignement s'est détériorée déjà à l'Athénée d'Ibanda. J'ai fait les années antérieures, j'étais parmi les brillants, mais j'ai fait le maximum, j'ai pas eu mon diplôme. Donc, ma famille a estimé qu'il était bon de venir à Kinshasa pour finalement avoir ce diplôme. Où je me suis fait inscrire à l'Institut Kassai, mais en autodidacte, où j'ai effectivement eu mon diplôme.
Avec quel pourcentage?
Pas beaucoup, hein, 54%, mais on ne sait pas si c'est le pourcentage réel que nous avons reçu, parce que ça a commencé déjà à bouger au niveau de l'enseignement. Il y a des collègues qui ont dit, mais j'ai pas de preuves, que on aurait soustrait 10% ou en tout cas 10. Probablement j'aurais fait 64, mais en tout cas sur le papier c'est 54.
Et après vos études à l'Institut supérieur de commerce de la Gombe, ISC, en 1989, vous faites quoi?
Tout de suite, j'ai pas chômé. Je me suis fait, après un test organisé par l'Association nationale des entreprises, des entrepreneurs du Zaïre, ANESA. Je me suis fait engager comme agent chargé des finances à une société privée à responsabilité limitée, et groupe ABI, où je m'occupais en fait de questions financières liées à l'entreprise. Mais c'était une expérience qui a duré juste une année.
Expliquez-nous comment vous passez des finances de l'ISC aux droits de l'homme.
C'est une question essentiellement de vocation. Déjà, quand nous étions à l'école secondaire, surtout à l'école supérieure, grâce à la lecture, à l'ouverture au monde, également l'encadrement spirituel, on était porté essentiellement vers le bien. Et la préoccupation, c'était quoi faire pour aider le semblable. Nous nous sommes engagés vite dans les mouvements mondiaux de la Croix-Rouge, où nous avons cheminé, nous avons découvert la Croix-Rouge du Zaïre à l'époque, où nous avons exercé quelques responsabilités au niveau, après une formation d'animateur conférencier, au niveau du droit international humanitaire. Et nous avons même tout fait pour que la Croix-Rouge ait une représentation à l'Institut supérieur de commerce. Donc c'est nous qui avons implanté et initié la Croix-Rouge à l'Institut supérieur de commerce en 1983.
Ma usia ma ukola. yokata mambu manunine banani basala moe
Floribert Chebeya, en 1992, un prix des droits de l'homme vous est décerné par la multinationale américaine Reebok Human. C'est quoi exactement?
Oui, justement, ça récompense, ça valorise les efforts que nous avons déployés pour faire rayonner les droits humains. La voix des sans voix pour les droits de l'homme, en fait, l'idée remonte vers les années 1983, où un groupe de jeunes étudiants et qui venaient de terminer également fraîchement l'université, se sont retrouvés pour commencer à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les questions des droits humains. Et sans moyens financiers, en prenant des risques multiples, pour en fait dénoncer, c'est en fait le travail que la presse est en train de faire actuellement, parce que vers les années 83, 85, 86, c'était risquant de dénoncer les violations des droits de l'homme.
Mais si je ne me trompe pas, la multinationale Reebok fabrique des chaussures, mais quel rapport y a-t-il entre les chaussures et les droits de l'homme?
Oui, tout à fait, pour dire que Reebok est une multinationale, effectivement, dont les usines sont principalement installées en Asie. Et pour réagir aux attaques contre la société, les attaques d'exploitation, a initié un programme des droits humains en 1988 avec Amnesty International et d'autres organisations pour récompenser chaque année, de par le monde, quatre jeunes âgés de tout au plus 30 ans pour leur mérite particulier en ce qui concerne les droits humains. Et en ce qui nous concerne, donc en 1992, nous étions dans la limite d'âge. On a estimé que tout le travail que la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme a fait en clandestinité, donc au moment où les droits de l'homme n'étaient pas encore autorisés en République d'Isaïe, donc nous avons pris des risques énormes pendant quelques 7 ans de travail en clandestinité pour sensibiliser l'opinion au niveau du pays à l'étranger. Essentiellement, c'est un travail de rassemblement d'informations, de publications, de vulgarisation, de dispatching, n'est-ce pas, des documents dans des conditions très, très difficiles.
Avez-vous un autre prix à votre actif?
Oui, ça c'est un prix, disons, pour le mérite personnel, mais l'autre prix que nous avons eu en 1995, toujours des États-Unis, par une organisation qui s'appelle International Human Rights Law Group, qui est devenue Global Rights. En fait, ce sont les efforts de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme pour contribuer à la construction d'une société civile pro-démocratique. Et là, en 1995-16, la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme venait d'organiser à Kinshasa le premier forum national des ONG des droits de l'homme de la République du Zaïre à l'époque.
Et comme d'habitude, nous allons mieux connaître Floribert Chebeya. Notre confrère Guy-Roger Nyampala a fait un petit tour au siège de la Voix des Sans-Voix et va nous faire découvrir sa face cachée.
Nous trouvons en ce moment dans la salle de réception de l'ONG de droits de l'homme, la Voix des Sans-Voix, située sur l'avenue des Écuries numéro 38-58, dans la commune de Kitambo. Une quinzaine de chaises et quelques tables, et une télévision et plusieurs affiches collées au mur. 5 personnes sont en mouvement dans ce bureau. Juste en face de moi, il y a un monsieur qui va bien vouloir se présenter.
Moi, je m'appelle Jules Lupancha. Je suis l'intendant de la sécurité à la Voix des Sans-Voix. Notre statut, c'est recevoir des visiteurs, puis les orienter à qui des droits pour les recevoir.
Et vous ouvrez vos portes ici à quelle heure?
Normalement, c'est à 8h30.
Quotidiennement, vous traitez quel type de dossiers?
Bon, ici, chez nous, nous traitons presque tous les dossiers. Il y a des gens qui viennent des assistances, des conflits parcellaires, des gens qui sont attaqués par des militaires. Donc, on traite du tout.
Nous allons quitter la salle de réception. Nous sommes juste dans une pièce à côté, plusieurs personnes, des chaises, plein de documents. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut connaître votre nom et votre statut ici?
Oui, c'est Timothée Dukwiza. Je suis membre SAC de la Voix sans voix. Je m'occupe du programme assistance judiciaire ainsi que le programme qui concerne les personnes qui sont refoulées de l'Europe.
Monsieur Floribert chez BEA vient au travail à quelle heure?
En tout cas, lorsque vous consultez notre registre de présence, et souvent il est ici parfois avant 7h30.
Et il quitte ici à quelle heure?
Très tard, compte tenu du volume des dossiers que nous recevons chaque jour.
Qu'est-ce qu'il aime de plus?
Le travail, et le travail bien fait.
Et qu'est-ce qu'il n'aime pas?
L'oisiveté.
Je vous remercie, Monsieur Timothée.
C'est moi plutôt qui vous remercie.
Alors, nous quittons maintenant Monsieur Timothée. Nous entrons dans une autre salle, juste un tout petit couloir, où nous retrouvons un monsieur qui est en train de lire des documents. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous avez quel statut ici?
Oui, je me nomme Peter Toumba, je suis coordonnateur à la VSV.
Ok, monsieur le coordonnateur, qu'est-ce que vous reprochez à votre chef souvent?
Le reprocher, c'est trop dur. Monsieur Floribert Tchebeya travaille sans relâche, une manière qui contrarie quelque peu avec une disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui veut que quiconque travaille a droit au repos.
Je vous remercie.
Et c'est vous que j'ai remercié pour avoir pensé à nous.
Merci Guy Roger Nyampala. Floribert Tchebeya, je vous ai vu hocher la tête à certains moments. Votre réaction?
La réaction, c'est la fidélité par rapport à nos réalités. Ça décrit également les exigences du travail, la qualité, la rigueur, le sérieux, et puis les réactions que ça peut produire auprès des collaborateurs et collaboratrices.
Et les collaborateurs, vous les avez choisis vous-même?
Pas vraiment, hein, pas vraiment. Il y a certains qui sont venus par mon canal, d'autres qui sont venus par la dynamique même développement de la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme.
Alors Floribert Tchebeya, vous êtes marié?
Oui, depuis 1992, père de 4 enfants.
Nous allons joindre quelqu'un pour vous, c'est votre femme. Madame Tchebeya, bonjour.
Bonjour.
Vous nous entendez?
Bien sûr, oui.
Alors soyons indiscrets. Comment votre mari vous a-t-il rencontré?
Oui, c'était dans la prière, hein, on priait ensemble, on s'aimait là-bas.
Et vous lui avez dit d'accord dès le premier abord?
Non, c'était un peu difficile. J'ai pris encore même un mois ou 2 mois comme ça pour lui dire que je l'aime.
Vous l'avez suffisamment fait marcher?
Bien sûr, il connaît.
Ah, il connaît. Floribert Tchebeya, réaction?
Je confirme.
Vous avez souffert, hein?
Oui, ça c'est si on est garçon et homme, donc on doit passer par ce canal, chacun doit porter sa croix.
Une petite anecdote peut-être?
Par rapport à
vos fiançailles, à votre amour?
Disons, quand j'ai découvert celle qui est devenue mon épouse, bon, j'étais en train de me poser déjà des questions et puis je l'ai trouvée à un bon moment, comme il dit, dans un lieu, n'est-ce pas, de prière. Bon, son passé m'a intéressé, son physique, sa beauté, et puis je me suis dit, je ne recule pas, je m'engage. Parce que j'ai voulu être un homme complet, parce que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais incomplet et que il me fallait, n'est-ce pas, une dame, donc mon épouse, pour que je sois complet, je puisse m'accueillir, quitter de toutes mes obligations pour réaliser également mon projet de société.
Madame, vous confirmez?
Bien sûr, je confirme.
Dites-nous rapidement aussi, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui?
Bon, seulement, il travaille beaucoup, il a peu de temps pour nous à la maison. En tout cas, il se donne corps et âme pour son travail. Je le dérange un peu pour lui dire qu'aujourd'hui, tu peux rester avec nous. Bon, il me dit que non, j'ai des dossiers à régler, alors là, je laisse, hein. Mais en tout cas, ça me dérange un peu, mais il est bien.
Donc, en fait, il passe très peu de temps avec vous?
Oui.
Et vous souhaiteriez qu'il en passe un peu plus?
Même de congé annuel, hein.
Ça fait combien de temps que vous êtes mariée? Vous pouvez nous rappeler là?
Oui, c'est le 4 avril 1992.
Alors madame, pour clore cet entretien, pouvez-vous proposer quelque chose à votre mari comme chanson?
Oh oui, bon d'abord mon mari aime vraiment des chansons anciennes, hein, telles que le OK Jazz, le Taboulet, mais moi je dédie la chanson Maya, chantée par Carlito, vraiment pour le faire plaisir, pour lui dire aussi que je l'aime, je l'aimerai toujours. Il est mon mari.
Alors madame, restez avec nous pendant que nous suivons la chanson.
Ok, merci beaucoup.
Maya, oh Maya mon amour. Yoka mongongo mozali kobele la yon na kati ya butu. Yoka lokole na suka ya mboka. Ozali moto kanisa. Nakomi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebale Maya. makasi ata butu eindi makasi tongo ekosuka kase tana nazali responsable na yo yo nde ozali coupable ya misère na ngai. Misapina komine kobanga bala liboso to sala ki matata ezala ki kakaboye soki na fungola ki misote olinga ki oboyanga mayanga ina tilo boko na litama makambo matoninga motema na komi kotanga basanza na misapina komine kobanga bala liboso yo kene ki isiro ezala ki kakaboye soki na futa kitikete na landa yo olinga ki yo zonga te mayana miswi lolemo nazoki makila masangani na nso ya monoko mosusu na bwaka mosusu na mela na komi na badute pala eleki osengaki divorce obandaki kaka boye soki nalandaki lolendo na yo ezalaki se tokabwana ye Kisasa, kisasa mboka te. Moto zali kokufa bango bazali koseka. Moto nakei kosenga konsei, akomi nde koseka pe kotongo konga na pembeni. Likamu ya kokamwa. Zuzi wa mesana kosambisa matata ya nga na yo maya. Nzoka nde alula kayo lisusu. Mokili komplike, ha? Moto sango na yoki na bonde kondima Nazangi confiance na mato inanga moko Nzoto eko misomo somo e Moto alia kananga sani moko lelo yu ako mambana Oni yu kanda loko laliwa Osali zoba loko landokie O mama ena mipiko lisuki na moto sango na yoki na bonde kondima Nazangi confiance na mato inanga moko Nzoto eko misomo somo e Moto alia kananga sani moko lelo yu ako mambanda Oni yu kanda loko laliwa Kosali zoba loko landoki yeye Maya Nakomi loko la moto basui na nyoka
Floribert Chebeya, je vous vois très pensif. Vous pensez à quoi?
Non, je suis le l'histoire relatée dans la chanson. Vous savez, Narcisse Lutumba, c'est vraiment une tête. Donc, je suis en train d'admirer encore sa poésie musicale.
Madame Chebeya, nous vous remercions pour cette chanson et bonne journée.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Nzambe asala eloko yo bolingo, eloko yo monyokoli. Ngai kona lela kalibala bandeko nzambe atindeli nga elimae. Ngai kona tuti libaku ya mabeo, isumana lavi. Likambo tema ya bala na yo, nazingi ne mabokwe. Koluka mwe na bosana Soki mpena kokokai Natinga mali susu nini Nakanga semo tema Awa koboboto linga ye Boran place nga inanye Na keikolela na seambula Na bonpinzo letika bilembo na matama Oyo nyo sofote ya mama Aponela ngai motema, motema ya kolinga baninga ya mokili, tika na nyoko maboye. Dio masasi, wapi balo inge, amisiye.
soki mokolo mosusu olotina tonkati ya butu e yebaka ngai wa yo e nazali kobanza yo eloko esali nga nde makanisi e tometeneki mingi ye mokili mununi nano te tina nini bolingo na biso e nuna mama maya soki mwoye ezali senga na mbana na ngai ya sika e mokolo yo kokumba zemi e senga ye permission mwana liboso yo kobota azala mwana ya mobali azwa kitoko na yo pesa ye kombo na ngai mokili monuni nano te tina nini souvenir na biso epola mama
tonton dorina tonton villa bakali tonton amiso tonton tsuka bino bato bolinga lisano epai ya silovangi epai ya longomba na fuburu epai ya tidikinsala na sexi pop epai ya bebel na lupangu epai ya maya na exodus na bandar soki bomondelinga maya boyebisa ye epai ya kei soki mobali atungisi ye azonga azonga po mpo na nini akomi nyokola esika na ye ezali awa natandi maboko nazali kozela nazali se na esika atikaki ngai na se ya nzete ya madame
nzambe asala eloko yo bolingo eloko yo monyokoli nzambe asala eloko yo lamo eloko yo misere nzambe asala eloko yo koeme eloko yo matata ngai ko nalelaka libala bandeko nzambe atindeli ngaki simbie tango akolala nde ntango tokokanisa maye tokosala lobi mama maya atiyanga na programe ya lobi mama maya akanisaka ngai ye mama kutu ekomi molai ndako kongise na miso e ntongo eboyi kotana maya e mama yo na kituku ya
Le grand témoin.
Okapi. 16 ans déjà que sa voix s'est éteinte, mais que son écho continue de résonner à travers la République démocratique du Congo et bien au-delà. En juin 2010, l'assassinat de Floribert Chebeya, figure emblématique de la défense de droits humains et fondateur de la voix de Sans Voix, plongeait tout un peuple dans la stupeur et le deuil. Il payait de sa vie son combat acharné pour la justice, la vérité et la dignité des plus vulnérables. Aujourd'hui, pour honorer sa mémoire ainsi que celle de son chauffeur Fidel Bazana et ne jamais oublier l'homme derrière le martyr, nous vous proposons un document exceptionnel. Nous remettons les temps en 2007, 3 ans avant les drames. Alain Irung avait le privilège de recevoir Floribert Chebeya dans cette émission Grand Témoin. À cette époque, le climat était lourd, les pressions constantes, mais sa détermination restait intacte. Dans cet entretien, vous allez entendre un homme calme, d'un courage immense, qui analysait sans concession la situation de notre pays et les défis de notre société. Écoutez ou réécoutez cette émission 16 ans après sa disparition. Ce n'est pas seulement faire un travail de mémoire, c'est raviver une flamme, c'est mesurer l'héritage d'un géant et c'est demander où en sommes-nous aujourd'hui avec les valeurs pour lesquelles il a sacrifié sa vie. Installez-vous. Voici Floribert Chebeya, en 2007, une voix intemporelle, une voix qui refuse de s'éteindre. Bienvenue dans Grand Témoin, mémoire vivante d'une nation.
Cette émission est une rediffusion.
Grand témoin s'entretient avec Floribert Chebeya, président de l'ONG des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Quel est l'état des lieux que vous pouvez dresser des droits de l'homme en RDC depuis le régime Mobutu jusqu'à ce jour?
En deux mots, l'état des lieux, c'est la consécration de l'impunité au Zaïre et en République démocratique du Congo. Il y a également des persécutions contre les défenseurs des droits humains et des atteintes massives au droit à la vie, directement par la gâchette facile et indirectement par la misère exagérée contre la population. Disons également le manque ou la mauvaise distribution de la justice congolaise. Donc il n'y a pas de droits humains sans justice. Donc voilà en deux mots les grands maux dont souffre la République démocratique et l'instrumentalisation du pouvoir politique et de tous les attributs de pouvoir, y compris les services de sécurité, la police, l'armée, etc., etc., contre la population congolaise. Et ça pose en fait un véritable problème de conception du pouvoir, d'exercice au pouvoir en République démocratique du Congo.
Près de 20 morts et des personnes enlevées le week-end dernier à Kanyola. Nous sommes là précisément dans le territoire de Walungu, à 50 km à l'ouest de Bukavu. Ces personnes ont été tuées à l'arme blanche par des présumés rebelles hutu-rwandais dans deux villages. Parmi les victimes, il y a plusieurs femmes et des enfants. Voici le récit que nous faisait Astrid Mujinga avant que le bilan ne s'alourdisse.
L'attaque a eu lieu à 1h du matin dans le village de Namibouze et de Chihamba, selon Blake Balagizi, président de la société civile de Kanyola, qui se trouvait présentement sur les lieux. Les assaillants ont tué 17 personnes, blessé 19 autres au moyen d'armes blanches, selon le bilan provisoire, et emporté beaucoup d'autres, dont le nombre n'est pas encore connu, dans la forêt. Ils ont également pillé toutes les maisons qu'ils ont visitées. Le médecin directeur de l'hôpital général de Walungu, Jean Mukenga, que nous avons joint au téléphone, nous a confirmé la présence de 5 femmes blessées, dont 3 grièvement, victimes de cette attaque dans son hôpital. Il a pu nous passer une victime que nous avons interrogée. Selon sa version, après avoir commis leur forfait, les assaillants ont laissé une lettre dans laquelle ils ont dit qu'ils voulaient faire connaître à la population que ceux qu'on croyait être enterrés sont ressuscités et qu'ils vont revenir en force. L'ordre aurait été par l'administrateur du territoire de Walungu de ne pas enterrer les morts jusqu'au moment où toutes les autorités auront constaté ces tueries. Mais l'administrateur du territoire de Walungu est resté injoignable au téléphone. Depuis Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
Dans ce genre de situation, Floribert Chebeya, que peut faire la Voix des Sans-Voix?
Bon, la situation est complexe. Il faut dire que les moyens traditionnels dont dispose une organisation de défense des droits de l'homme sont quand même limités par rapport aux moyens dont dispose l'État, qui est en fait le premier garant de réalisation des droits humains en République démocratique du Congo. Donc il faut en fait une conjugaison d'efforts où l'État qui existe. Alors on doit se poser la question s'il y a encore un État en République démocratique du Congo, ce qui est en fait un problème de base. Et le travail des ONG en fait est un travail complémentaire à celui fait par l'État congolais. Et s'agissant de la persistance de l'insécurité, des tueries, de massacres au nord et au sud Kivu, je pense la responsabilité de l'État congolais apparaît au grand jour. Et je pense l'État congolais, parce qu'on ne peut pas concevoir un gouvernement pour rien, le gouvernement doit tout faire pour arriver à sécuriser les personnes et les biens. Et le gouvernement est là pour en fait accéder à la volonté de la population et à ses aspirations profondes par rapport aux droits de l'homme, par rapport à la justice, par rapport au bien-être. Mais malheureusement, ce que nous vivons au Congo, c'est le contraire.
Le grand témoin.
Grand témoin reçoit Floribert Chebeya, président de l'ONG des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Beaucoup d'auditeurs de la radio Okapi s'intéressent aux droits de l'homme et vous posent quelques questions. Commençons par cet auditeur de Kananga.
Maître Alain Kateta Bangabia, avocat à la cour d'appel de Kananga. Ma question va tout droit à M. Chebeya. Peut-il certifier la main sous le cœur que tous les financements des ONG des droits de l'homme ainsi que des activistes des droits de l'homme contribuent ou a contribué jusqu'à ce jour à l'amélioration des droits de l'homme dans ce pays? Peut-il le certifier?
Réponse Floribert Chebeya.
Oui, bien entendu.
La main sur le cœur.
Absolument. Parce que nous voyons d'où nous venons, comment nous avons commencé, nous l'avons dit. Nous avons commencé dans le néant, armés seulement par la volonté de servir, de travailler à la réalisation des droits humains. Les concours financiers extérieurs sont arrivés progressivement. Malheureusement, en République démocratique, il n'y a pas encore de culture pour prendre en charge les questions des droits humains. Donc, les degrés de dépendance par rapport au financement extérieur est quand même très très élevé et fragile. mobilise quand même à terme les efforts des défenseurs des droits humains. Il est important peut-être de dire qu'il faudrait qu'on imagine des voies et moyens pour, n'est-ce pas, garantir ces efforts, les financements des ONG à l'avenir. Et là, c'est un appel que nous lançons au gouvernement de la République démocratique du Congo qui, en fait, doit soutenir les efforts au niveau de la société civile parce que de plus en plus, dans le monde contemporain, la communauté, par exemple, des Nations Unies recourt à l'expertise de la société civile. Et même dans la bonne gouvernance aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un État qui ne s'ouvre pas à la collaboration franche et sincère, n'est-ce pas, de la société civile. C'est un appel que je lance à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo pour que s'instaure enfin un partenariat concluant entre la société civile, les ONG des droits de l'homme et l'État congolais.
Prenons cette question de Mbandaka.
Je m'appelle Patrick, je suis à Mbandaka. La question que je vais poser à notre invité, c'est celle de savoir si la justice militaire peut satisfaire les attentes de la population. Je prends un exemple concret. Du 3 au 4 de l'année 2005, je pense, il y a eu pillage à Mbandaka. Il y a eu la justice militaire qui a organisé un procès pour juger les militaires qui étaient compromis dans cette histoire-là du pillage. Jusqu'ici, la population continue à attendre le vrai verdict parce qu'à un moment donné, on a jugé et puis on a condamné certains militaires. Curieux, c'est que ces militaires continuent encore à vaquer paisiblement et continuent à marcher normalement alors que la population attend que les vrais auteurs de ce pillage soient effectivement jugés et puis condamnés.
Comment la voix des sans-voix peut-elle aider la justice à faire son travail correctement?
Les maux dont souffre la justice congolaise ont été dénoncés à plusieurs reprises. Je pense l'État congolais qui doit exister réellement devrait prendre ses responsabilités à deux mains. Pour garantir la justice, une bonne justice en République démocratique du Congo, il faut arriver à résoudre tous les problèmes qui se posent. Il y a des problèmes de formation, peut-être ce n'est pas le problème principal. Il y a plutôt un problème de conditions de travail et de conditions de vie.
Quelle peut être la contribution de la voix des sans-voix dans tout ce que vous dites?
Non, la contribution de la voix des sans-voix, en fait, qui ne peut pas remplacer l'État congolais, c'est de rappeler à l'État congolais ses engagements nationaux et internationaux en matière des droits de l'homme et dénoncer, lui faire, n'est-ce pas, des propositions pour qu'il puisse réellement se réaliser. Nous aidons également dans certaines mesures à attirer l'attention de bailleurs extérieurs pour aider l'État congolais pour garantir la justice en République démocratique du Congo. Mais ça ne peut venir qu'en appoint. On a tendance à inverser, n'est-ce pas, les choses où on attend plus l'appui de l'extérieur, on néglige, n'est-ce pas, les efforts que devraient déployer les autorités congolaises. Un exemple, en 1998, nous étions en train de commémorer au niveau mondial le cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'époque, j'ai dit au ministre des droits humains que c'était quand même un non-sens que, alors que l'État congolais s'était engagé à commémorer comme les autres États du monde, mais tous les financements sont venus des missions diplomatiques et les gouvernements congolais n'avaient presque pas contribué. Ce qui fragilise en fait les droits humains dans notre pays.
Encore une question de Kananga.
Moi, c'est Eunice Tchadia, je suis à Kananga. Et je pose ma question à M. Tchebea. Quelle suggestion peut-il faire afin que le droit de l'homme soit respecté au niveau des cours et tribunaux? Car nous constatons que dans la plupart des cas, ce sont les gens nantis qui gagnent le procès.
Encore et toujours la justice.
Oui, je comprends qu'il n'y a pas de droit de l'homme sans justice. Malheureusement, c'est que l'auditrice vient dire, c'est ça la réalité ou la réalité que nous vivons en République démocratique du Congo où il y a une justice des plus forts contre les plus faibles. Je crois que c'est la même recommandation. Il y a des appuis à faire au niveau de l'État, au niveau de la formation, au niveau de la documentation et au niveau de l'humanisation des conditions de vie et de travail du personnel judiciaire et leur assistant.
Lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission. Terminons la série des questions par Mbandaka.
Oui, moi c'est Dulphin Dimbolen, étudiant à l'université de Mbandaka. Ma question concerne les droits humains. Lorsqu'on sait que pratiquement, par exemple, dans la ville de Mbandaka, il y a des cas de violation des femmes, il y a des cas de violation des droits de la presse qui continuent, la question est de savoir, est-ce que le principe des droits humains existe ou alors cela existe sur texte et où en est-on avec son applicabilité?
Réaction Floribert Chebea.
Oui, on ne va pas se poser de questions sur l'existence de principes. Les principes existent, tout comme les droits humains, c'est proclamé un idéal commun à réaliser par la communauté de nations à travers le monde. Et déjà, à l'occasion du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1998, il y a eu des débats fort intéressants sur l'effectivité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments internationaux en matière des droits humains. Les textes existent, mais il faudrait au niveau des États une volonté réelle à pouvoir les appliquer déjà au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous vous rappelez, vers les années 2000-2001, Mme la Haut-Commissaire Mary Robinson, qui a dû pratiquement démissionner, a dénoncé l'hypocrisie des États qui proclament les droits humains mais qui ne donnent pas les moyens financiers matériels nécessaires pour la réalisation des droits humains. Donc c'était en fait une réaction de Mme la Haut-Commissaire pour dénoncer et condamner l'hypocrisie des États.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'est un regrettable accident, le même rituel sanglant. Autant en emporte le vent, le sang appelle le sang.
Mon ami Zongo.
Grand témoin, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous remercions Floribert Chebeya. Toute l'équipe de Grand Témoin vous remercie de votre attention. Okapi Weekend matin se poursuit sous le rythme de cette belle musique.
L'émission que vous venez de suivre est une rediffusion.
Malu katonda bakole, kutonda nkumba kutonda nibalela, kutonda ntonto jiwanyi ngala pankaji. Ujika ine malu ele munu mulwe. Tatu ato kwa mamu akaye kwa abu tatu eleleyi. Bana baga shalo batangu lantangu tatu angeleleyi. Tatu wanyi musumbi jabilamu. Mamwa kapwata tu kutubenga mamwelele yi Baga baga shala batangu lata mamwa ngelele yi Mamwa nyimunda bidya chise mamwelele Mutu yonso ujini mame
Thank you.
Inch'Allah.